Chapitre 14. Tout en tenant ces menus propos, Madame de Chambrosay se fit mettre au lit et Justine se retira lorsqu'elle vit Morphée jeter sa poudre d'or dans les yeux de sa belle maîtresse, ce qui ne tarda guère. La marquise de Chambrosay n'était pas la seule qui fut préoccupée tendrement à l'endroit de Monsieur Jean. Rosette, la danseuse, pensait aussi fort assidûment au vicomte de Candale depuis le souper de la Guimard. Rosette, qui avait le cœur sensible malgré sa vie de Manon Lescaut, il faut dire à son excuse qu'il n'était guère possible alors d'emmener une autre à l'opéra, éprouvait des émotions assez rares pour un sujet de la danse récemment sorti de l'espalier. Elle aimait. Ce qui l'avait séduite chez le vicomte, c'était une certaine grâce triste, un vague air d'ennui, qui, derrière son esprit, faisait supposer une âme, chose dont on s'inquiétait fort peu dans ce joyeux XVIIIe siècle. En ce temps-là, il fallait, pour plaire, avoir la bouche en cœur, le nez au vent, le rouge à la joue, naturel ou faux, le jarret tendu, l'épée en verrouille, le claque sous le bras, la main au jabot avec un air de marquis de Moncade, offrir des pastilles de sa bonbonnière, débiter des fadeurs ou des équivoques, chanter les derniers couplets contre la favorite, être gai, vif, pimpant, superficiel et surtout rieur, car c'était l'époque des ris, des jeux et des plaisirs qui devaient régner dans la vie comme dans les ballets et les dessus de porte. La mélancolie, cette fleur délicate de l'âme, était considérée comme une maladie qui, d'après son étymologie, regardait M. Purgon et M. Fleurant. Aussi fallait-il à Rosette un naturel plus tendre et plus distingué pour aimer le vicomte au moment où ses compagnes, et même des femmes d'un rang plus élevé, eussent trouvé qu'il donnait dans le morne et frisait l'ennuyeux par faute de pointe et de montant. Quand il était pétillant comme un feu d'artifice, sous le fourmillement des paillettes de son costume et de son esprit, et que, dans le premier moment de ses conquêtes, il n'avait pas reconnu le vide des plaisirs, Rosette ne s'était pas sentie touchée de son mérite, comme elle le fut depuis, circonstance qui tendait à prouver ce paradoxe énorme, que sous le règne de Cotillon III à l'opéra, une danseuse a pu avoir de l'âme, ce qui semble tout à fait invraisemblable. Ces espèces n'aimant que l'or, les contrats de rente, les diamants, la vaisselle plate, les carrosses, les laquais de 6 pieds de haut et autres choses solides, et ne s'amusant que des plaisanteries les plus insoutenables en jargon de coulisses ou en débauche. La pauvre Rosette avait été profondément étonnée de ce que Candale, après l'avoir reconduite en vis-à-vis, l'eût si vertueusement saluée à la porte de sa chambre, car, sans vanité, elle se croyait faite de façon à ne pas mériter tant de respect, et dans tout le règne de Louis XV, un fait semblable ne s'était peut-être pas produit. Rosette n'en dit rien, car cette histoire divulguée eût perdu Candale de réputation. Aussi, le matin, très inquiète de cette mésaventure, elle fit devant une glace l'examen détaillé de ses charmes. Elle déroula ses cheveux, qui étaient à pleine main. Elle regarda ses dents en les découvrant jusqu'alors gencives roses. Jamais jeune loup, égorgeant dans les bois son premier mouton, n'en eut de plus pur. Elle examina son teint, plus uni que le satin, que le marbre, que tout ce qu'il y a d'uni au monde, et elle n'y trouva ni un pli, ni une ride, ni une gerçure, ni une tache de rousseur, ni une vergeture. Hébé, la déesse de la jeunesse, Hygie, la déesse de la santé, ont à coup sûr moins de fraîcheur. par un heureux privilège que le vice a plus souvent que la vertu, les joues de Rosette, malgré le fard et les baisers, conservaient cette fleur de pêche que le moindre contact enlève. Elle passa en revue ses bras, qui étaient les plus beaux du monde, et ses jambes, que tout Paris admirait, brillantes comme le marbre, sous leur réseau de soie, dans les ballets de Doberval. Le résultat de cette inspection fut un sourire. Rosette se trouvait belle. Elle était rassurée et se donna pour explication que Candolle avait ce soir quelques soucis dans l'âme, ou bien qu'il était fatigué, quoique le XVIIIe siècle n'admît pas que l'on pût être fatigué. Elle prit donc une grande résolution, surtout pour une danseuse, plus adroite de ses pieds que de ses mains, ce fut d'écrire au vicomte de Candale. La danseuse, et même les grandes dames du XVIIIe siècle, ne brillaient pas précisément par la calligraphie et l'orthographe. On a conservé des lettres de Madame de Pompadour et de Madame la Popelinière, d'un style charmant, mais écrites comme ne le feraient pas aujourd'hui les cuisinières. Rosette n'en savait ni plus ni moins que les jolies femmes de son temps. Elle prit une grande feuille de papier et y traça en lettres longues d'un pouce et de l'aspect le plus hiéroglyphique le billet suivant qu'elle aurait mieux écrit, mais écrit en trempant le bout de son orteil dans l'encre. « Mon cher vicomte, je suis très inquiète de vous car, sans doute, vous étiez malade l'autre soir ou troublé de remords de conscience lorsque vous vous retirâtes si brusquement et si maussadement. Je vous soupçonne de m'avoir scellé quelques gros péchés quand vous étiez à mes genoux chez cette grande désossée de Guimard. Venez achever votre confession et ne craignez rien, la pénitence sera douce. Je suis pour vous chez moi toute la nuit et tout le jour, excepté de midi à 2 heures, où je répète un pas nouveau avec des gargouillades dont vous serez content et qui me vaut mieux que les rigodons, les tambourins et les lourds. Adieu, mon cœur, Rosette. » Second sujet de danse à l'opéra. N'est-ce pas que, post-scriptum, Guimard est trop maigrie et qu'elle a l'air d'un faucheux quand elle danse? Cette lettre fut portée à l'hôtel de Candale et remise au vicomte sur un joli plateau d'argent ciselé par réveil. Candale ne s'étonna pas autrement des jambages hasardés et de l'orthographe fantastique du poulet qu'il déchiffra assez couramment, et dit au grand laquais qui attendait la réponse, avec cet air adorable de fatuité des seigneurs d'autrefois, moitié excédé, moitié protecteur, « C'est bon, j'y passerai. » Chapitre 15. Lorsque Madame de Champrosay s'éveilla, sa première pensée fut Monsieur Jean. Tous ses rêves avaient été pour lui. Toute la nuit, sous son ciel à baldaquin, la noble marquise s'était vue dans la petite chambre louée par Justine, avec le costume de Jeannette, assise dans ce fauteuil qui avait si bien l'air d'avoir appartenu à une aïeule, tenant sur ses genoux l'étroite planchette de l'ouvrière en dentelle et croisant avec ses doigts menus des fils imperceptibles qui s'embrouillaient sous les baisers de Monsieur Jean, dévotement agenouillé sur un petit tabouret devant elle. Changeant de sphère, Madame de Champrosay semblait avoir changé d'âme et de caractère. L'obsession des galantins qui la bourraient de madrigaux fades de compliments édulcorés lui avait jusque-là produit l'effet de ces sucreries, de ces crèmes fouettées, de ces meringues à la glace qui étaient le goût des aliments sains et rassasis sans mourir. Trop entourée pour faire un choix, trop prévenue pour éprouver un désir, elle consumait sa vie dans une nonchalance fantasque. Les amours avaient chassé l'amour, et depuis sa rencontre avec M. Jean, l'amour avait chassé les amours. Dès qu'elle fut habillée, le désir d'aller à la petite chambre s'empara d'elle. Mais Justine, qui était prudence, malgré ses airs évaporés, représenta respectueusement à sa maîtresse qu'il ne serait pas toujours facile de sortir de l'hôtel incognito, et que les stratagèmes qui réussissaient bien une fois ou deux à cause de l'imprévu finissent par s'éventer et se découvrir. Madame ferait mieux de prétexter un séjour de 6 semaines à la campagne, dans un château quelconque. Puis rien ne serait plus facile, mais si j'annonce que je vais dans une de mes terres, j'y serai attendu, et mes amis de Paris pourraient vouloir me rendre visite, et tout se découvrirait. Mais aussi, n'est-ce pas dans un de ces châteaux que je conseillerais à madame d'aller? Mais chez une de mes amies, la chose serait bien plus vite découverte. N'ai-je pas entendu dire à madame qu'elle avait une parente en Bretagne? Ah, c'est vrai, je n'y pensais plus. Oh, une vieille tante, oui, sempiternelle, perchée comme une chouette dans un ancien donjon, en compagnie d'un tas de hiboux, avec un nom qui fait saigner la bouche, tant il est dur à prononcer. On dit qu'il faut passer par une série de casse-cou pour arriver à cette gentilhommière qui surplombe de 1 200 ou 1 300 pieds sur l'océan. Eh bien, madame ferait bien d'aller rendre visite à sa tante pour un mois ou deux. Mais Justine, que me dis-tu là? La parente de madame ne vient jamais ni à Paris ni à Versailles. Oh non, non, elle se croit encore aux tandanes de Bretagne et des parlements et regarde Paris comme une Babylone d'abomination. Eh bien, c'est ce qu'il nous faut. Madame, accompagnée de la fidèle Justine, monterait en chaise de poste, s'excusant de ne pas emmener de suite sur l'humeur quinteuse et revêche de la vieille dame, et partirait bien ostensiblement avec un grand bruit de grelots et de fouets. Puis, au premier relais de poste, nous prendrions nos habits de bergère et nous rentrerions dans Paris par une autre porte. Mais c'est délicieux, s'écria la marquise en frappant joyeusement ses mains l'une contre l'autre. De cette façon, j'ai devant moi 6 semaines de liberté. Oh, Justine est un vrai trésor. Puisque madame la marquise daigne le dire, je n'en disconviens pas, fit Justine avec une révérence comique. Oh, je vaux bien mon prix, et monsieur de Marivaux a mis dans ses pièces du théâtre français des soubrettes qui ne sont pas de ma force. Madame de Champrosay fit un petit signe d'assentiment, et toutes les choses se passèrent de la façon que Justine les avait réglées. Le départ convenablement annoncé, la chaise sortit de la cour de l'hôtel, entraînée par 3 vigoureux percherons, au bruit d'un tintamarre de fouet qui faisait pousser le pitoyable glapissement aux sylphes dressés fessés dans l'air. La chaise eut bientôt traversé les rues fangeuses de la grande ville, couvrant les piétons d'un déluge de boue, rouant les chiens, renversant les philosophes qui, à l'instar de Jean-Jacques, tâchaient de se faire accrocher par les équipages, afin de pouvoir mettre dans leurs feuilles des déclamations contre les gens riches à l'adresse de la canaille, que ces sortes d'invectives déclamatoires réjouissent toujours. L'on sortit de la barrière et l'on entra dans la campagne. Quoiqu'il eût tombé de la pluie dans la matinée et que les chemins fussent détrempés, le ciel brillait dans tout son éclat et quelques jolis nuages pommelés, aussi légers que ceux des plafonds de Fragonard, errait sur le fond d'un bleu tendre, aussi pur que celui de la porcelaine de Sèvres la mieux réussie. Un feuillage d'un vert tendre et gai, car le printemps ne faisait que de naître, et Flore n'avait pas encore vu ses fleurs changer en fruits, allait remplir les corbeilles de l'aumône, rendait l'horizon agréable et riant comme un décor champêtre peint à l'opéra par Boucher. Le paysage, quoique moins azuré et vert pomme dans le lointain, n'en avait pas moins son charme, car la nature, bien que manquant de grâce et un peu grossière, s'entend assez bien à tenir la palette et à manier les pinceaux, et s'il avait un peu d'académie, on n'aurait rien à lui reprocher. Il est vrai que les personnages qui peuplaient ces campagnes n'étaient pas habillés en taffetas-gorge de pigeon et de satin vert céladon comme ceux des dessous de porte et des pastorales. Les moutons qui paissaient ne méritaient guère l'épithète de blanc que leur prodigue Madame des Houlières. Il paraissait n'avoir pas été savonné depuis longtemps, si même il n'avait jamais été. Les tendres agneaux ne portaient au col aucune faveur rose ou bleue, et si la belle Phyllis eût voulu en serrer un contre son cœur, il eût infailliblement taché son passage à l'échelle, car rien n'était plus crotté que ses agnelets. Ces boutons étonnèrent un peu la marquise, qui s'était fait, d'après les petits vers de M. l'abbé et les gouaches de son éventail, une toute autre idée de la race ovine. Et qu'est-ce donc que ce tas de haillons qui chemine sur deux grands vilains pieds, plats et rouges? Cela, madame, c'est un berger. Ciel, que me dis-tu là, Justine? Tu te moques? Un berger, ce patou, mais c'est impossible. Ben, il ne ressemble guère à ceux de l'opéra. Et il a bien tort, Justine. La réalité devrait copier le faux. Sans doute, Marcel et Vestris, quand ils dansent la couronne dans les bergerades, ont bien une meilleure façon que cela. Et cette autre horreur qui va battant des dindons avec une gaule. Bien, nous venons de voir Tircis, maintenant nous voyons Phyllis. Oh, Justine, tu abuses de ce que je ne connais pas mieux au sort de la campagne pour me dire des histoires incroyables. Cet affreux morceau de chair mal taillé, cette perruque de filasse emmêlée, ce teint truité, ces gros jupons rapiécés, cette affreuse cape en guenaille, en guignol, non, c'est pas Phyllis. Mais c'est Phyllis en personne, madame. Il y a des milliers de Phyllis en France, aussi laides que cela. Ah, mais tu déranges furieusement mes idées pastorales. En conversant ainsi, Madame de Champs-Rosay penchait sa tête tantôt à droite, tantôt à gauche, s'émerveillant de tout ce qu'elle voyait, et toute joyeuse de l'idée que, tout en paraissant s'éloigner de Monsieur Jean, elle s'en rapprochait en réalité. Quand la chaise s'arrêta au relais, Madame de Champs-Rosay se prétendit un peu fatiguée et demanda une chambre d'un air languissant, comme une personne qui se sent attaquée d'une indisposition qu'elle n'a pu prévoir et voudrait ne s'être pas mise en route. La chaise fut dételée et Madame de Champs-Rosay dit qu'elle verrait si dans 2 heures elle pourrait continuer son chemin. Comme vous le pensez bien, l'indisposition ne fit qu'augmenter et Justine, du ton d'autorité d'une personne qui s'entend au chaud de la médecine, décida qu'il fallait rebousser chemin, et le repartit, non cette fois dans la chaise de poste, mais dans une carriole louée d'avance par Justine. Le cheval percheron attelé à la carriole ramena d'un joli petit train la marquise et la soubrette à la barrière Saint-Denis, où les mâles furent emballés dans un fiacre, et bientôt les deux femmes se trouvèrent dans le petit logis dont M. Jean, quoiqu'il n'en eût pas l'adresse par écrit et qu'il n'y fût revenu que le soir, sut parfaitement retrouver le chemin. Chapitre 16. On voit dans certains contes indiens des personnages, soit dieux, soit génies ou tout simplement magiciens, qui ont la facilité de changer de corps et d'existence sans changer d'âme pour cela. Grâce à l'industrie de Justine, qui avait su mettre le caprice de sa maîtresse en action, Madame de Charrosay, sans talisman, sans parole de grimoire, se trouvait dans la situation de ces personnages fabuleux. La transformation, ou si vous l'aimez mieux, la métamorphose, était complète. Rien dans ce réduit ne rappelait à Jeannette la marquise de Champrosay. C'était une existence toute nouvelle. Il arrive souvent qu'on se déplace dans les conditions même les mieux réglées, mais l'on apporte toujours quelque chose de soi dans la situation qu'on traverse, ne fût-ce que le vêtement, ne fût-ce que le nom. Mais ici, tout était différent, et Madame de Champrosay ne savait plus au juste si elle était marquise ou grisette. Un rendez-vous avait été pris pour le dimanche. Monsieur Jean, vous le pensez bien, n'eut garde d'y manquer. Comme c'était jour de fête, le jeune protégé de Monsieur Bonnard, qui était venu de bonne heure et avait failli surprendre au lit la fausse Jeannette, habitué à se lever tard, proposa, comme c'est l'usage entre commis et grisettes, une partie de campagne aux environs de Paris, avec une collation de fraises, course à âme dans le bois et dîner au cabaret dans le Lapin Blanc. Ce plan fut agréé. Seulement, Jeannette voulait emmener Justine. Mais celle-ci, qui préférait à la compagnie la plus aimable, celle de son courtaud de boutique, garçon peu éloquent sans doute, mais expressif dans le tête-à-tête, s'excusa en disant qu'elle avait à faire des visites qui étaient d'importance et ne se pouvaient remettre. Jean lui sut beaucoup de gré de cette éclipse, et Madame de Champrosay ne lui en voulut pas. On gagna la barrière en fiacre. Monsieur Jean, encore qu'il ne fût que surnuméraire aux gamelles, paraissait avoir apporté d'Auxerre un nombre suffisant d'écus de 6 livres dans sa bourse de peau, et se pouvait permettre ces magnificences qui eussent effrayé et épuisé de petits clercs de la basoche et même des fils de droguistes. Les environs de Paris, sans être de la beauté dont les voyageurs prétendent ceux de quelque autre ville, offrent cependant un agréable mélange de cultures, de jardins, de marais, de bocages, où les oiseaux et les amours peuvent trouver à se nicher. Les maisons des cultivateurs avec leurs toits rustiques, les moulins à vent tournant leur aile flasque, les guinguettes qui rient et qui chantent, animent ce paysage qui, sans être agreste ni pittoresque, a néanmoins de jolis détails et des charmes imprévus. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin des ombres et des fraîcheurs de Tempe pour encadrer les amours d'une grisette parisienne et d'un commis. Jean et Jeannette s'en allaient donc par la campagne, le long des haies où la jeune femme apercevait toujours quelques fleurettes à cueillir, le long des blés, trop jeunes encore pour pouvoir prêter leurs gerbes et leurs rideaux à l'amour. L'on arriva ainsi en devisant au bois, où Jeannette fut hissée sur un âne à son grand amusement et parcourut plusieurs allées, accompagné de Jean et de Lanier, frappant de conserve la coupe de maître Aliboron. La bête à longues oreilles ne s'en inquiétait pas autrement, et happait tout en trottinant quelques brindilles de feuillage ou quelques tiges de chardon, d'où s'envolaient les papillons aussi empressés à courtiser la fleur épineuse que la rose dont les pins s'y est pris. La conversation qu'ils eurent ensemble serait difficile à rapporter. Des phrases insignifiantes prennent beaucoup de valeur par l'éclair de l'œil, le tremblement de la voix, la rougeur des joues. Jean et Jeannette s'aimaient déjà trop pour se le dire, et jouissaient, sans avoir le besoin d'exprimer ce qu'ils sentaient, du bonheur de se trouver ensemble, dans les champs, parmi les fleurs et la verdure, un beau jour de printemps. Comme l'amour est une passion primitive, on la ressent peut-être avec plus de vivacité quand on se trouve au sein de la nature. Les conventions humaines et sociales s'oublient plus facilement lorsque rien de factice ne les rappelle. Et telle vertu qui serait restée farouche à la ville s'humanise au champ. C'est pour cela que les poètes, qui, sous leurs images, cachent quelquefois des idées philosophiques, ont peuplé les montagnes, les vallées, les bois et les prairies, les fontaines d'oréades, de dryades, de nappées, de limniades, de naïades, de pans, d'égypans, de satyres et de faunes, fort galants et fort amoureux, et n'ayant rien imaginé de semblable pour les villes. Madame de Champs-Rosé, cependant, ne succomba point à ce charme, et si elle entendit les conseils des oiseaux qui se becquetaient dans leur nid, des fleurs qui se penchaient l'une vers l'autre en entr'ouvrant leur calice, elle ne les écouta point. Fût-ce par rigorisme ou par souvenir des recommandations de Justine, ou Monsieur Jean, rendu timide par l'émotion, ne sut-il pas profiter de l'ombre protectrice des bosquets et des facilités de la fougère? Non. L'état où se trouvaient les deux jeunes gens était si délicieux qu'ils craignaient d'en sortir par quelque entreprise qui eût pu augmenter leur bonheur, mais peut-être aussi le troubler. C'est ainsi qu'une marquise et un vicomte, déguisés l'une en grisette, l'autre en commis, mangèrent des fraises dans les bois, sans que la vertu eût à gémir que de quelques serrements de main ou de quelques baisers sur le front ou les cheveux, dont la bergère la plus prude se serait à peine formalisée. S'il semble étrange à quelques lecteurs que M. Jean, qui avait paru plus vif et plus délibéré à son début, se soit alangui de la sorte, nous répondrons qu'alors il était pris de goût seulement, et que maintenant il est pris d'amour. La sensible lectrice comprendra, nous y comptons, cette nuance délicate. Les amoureux prétendent vivre d'air à la façon des sylphes, dont M. Crébillon le fils et M. le comte de Gabalis racontent des choses on ne peut plus étonnantes. Mais cette assertion nous paraît fort hasardée. Il est certain que Jean et Jeannette, malgré tout le plaisir qu'ils avaient d'accueillir des violettes, des fraises et des baisers dans les bois, arrivèrent avec un certain contentement au cabaret du Lapin Blanc. Le cabaret du Lapin Blanc faisait assez bonne figure sur le bord de la route. Son enseigne, haut connue depuis un temps immémorial, avait été barbouillé par un descendant fort éloigné d'appel, des deux côtés d'une plaque de tôle qui brimbalait au vent et qu'ombrageait une longue branche de pin. Mais l'hôtelier, peu sûr du talent de l'artiste et se défiant de la fidélité de la représentation du Lapin Blanc, avait jugé à propos d'établir dans une cage une enseigne parlante où les yeux les plus ignorants se pouvait tromper. Un énorme lapin blanc, aux oreilles démesurées, aux gros yeux vermeils, brochait des babines en broutant une carotte à côté de sa fallacieuse image, qu'on aurait pu prendre pour un cheval, un cerf ou un éléphant. La façade du lapin blanc était enluminée, comme le teint d'un buveur, d'une joyeuse couche de rouge qui indiquait au desservant de la dive bouteille un temple ou tout au moins une chapelle de Bacchus. Sur le toit, de vieilles tuiles moussues où avaient fleuri quelques joubarbes, se promenaient des pigeons de toutes couleurs, pauvres oiseaux de Vénus, ne prévoyant pas la crapaudine et les petits pois, et faisant l'amour comme si la broche ne tournait pas incessamment au rez-de-chaussée. Les poulets montraient dans la cour la même insouciance, bien que quelques gars de sauce veste blanche, au dos en casque à mèche, coutelas au côté, sortit de temps à autre de la salle basse et en empoigna un par l'aile malgré ses piaillements, car le cabaret était bien achalandé et la vrille de fumée de sa cheminée, qu'on voyait monter en spirale bleuâtre sur un fond de verdure, ne s'arrêtait jamais. Autour de la maison s'étendaient des tonnelles en treillage, formant cabinets, et toutes couvertes de houblons, de vignes vierges, de rosiers grimpants et de chèvrefeuilles. C'était champêtre, rustique et galant au possible. Les parfums des fleurs corrigeaient à propos les arômes culinaires, plus substantiels mais moins suaves, et une feuille de rose tombait dans un verre comme pour mêler Vénus à Bacchus. Les deux amants s'établirent sous une de ces tonnelles, vis-à-vis d'une table garnie d'une grosse nappe bise fort propre, traversée d'une large raie rose, de couverts d'étain, de verre à côte, et d'un broc, d'un petit cru d'argenteuil, assez vert mais naturel, et n'ayant point reçu le baptême, chose rare chez les cabaretiers, grands convertisseurs de vin, et qui n'en souffrent point dans leur cave, qui ne soient bons chrétiens. Le repas fut le plus gai du monde. Les mets, quoique simples, étaient assez bien préparés, et l'appétit leur servait de sauce. À coup sûr, si quelqu'un eût passé sur la route et regardé à travers les découpures du feuillage ce commis et cette grisette, mangeant et riant à belles dents, il n'eût pas soupçonné que ce commis était un vicomte et la grisette une marquise. Monsieur Jean, monsieur de Candolle et mademoiselle Jeannette, Madame de Champrosay. On revint à la ville par le plus joli clair de lune, et Jeannette, qui prenait tout à fait l'esprit de son rôle, salua gracieusement M. Jean au seuil de sa maison, dont elle lui referma fort proprement la porte sur le nez. C'est ainsi que cette journée, commencée sous les auspices de Vénus, déesse de l'amour, finit sous ceux de Minerve, déesse de la sagesse. Chapitre 17. La pauvre Rosette attendit vainement le marquis de Candale, à qui le personnage de M. Jean rendait difficile d'en soutenir un autre ailleurs. Elle s'étonna de ce manque de galanterie dans un gentilhomme si accompli et en prit une humeur qui lui fit rabouer fort aigrement un officier de mousquetaire, un petit collet et même un fermier général qui se voulait émanciper à sa toilette, quoique ces derniers soient en bonne odeur à l'opéra et n'y trouvent pas de cruel à ce qu'on prétend. Le soir, elle dansa son pas tout de travers, perdit la mesure, confondit les temps et risqua de se faire siffler car elle cherchait des yeux le vicomte dans la salle. Et ne le voyant pas dans sa loge habituelle, elle tâchait de fouiller du regard les clavecins et les bonnets d'évêque où elle le soupçonnait en bonne fortune avec quelque rival. Elle ne put rien découvrir et rentra toute dépitée dans la coulisse, sans même penser au peu d'effet de la gargouillade qu'elle venait d'exécuter assez mal, il faut le dire, et qui lui eût attiré, bien réussi, des applaudissements qui certes eussent fait enrager son ami Guimard. Le souper qu'elle était dans l'habitude de donner après la représentation fut le plus triste et le plus maussade du monde. Quelques efforts que fissent pour l'égayer les convives et les parasites qui ne manquent jamais à ces sortes de fêtes. Ce fut peut-être pour la première fois qu'on s'ennuya chez Rosette. Le lendemain, voyant que Candale n'arrivait pas, elle résolut un grand coup de tête. Ce fut de l'aller trouver, quoique son amour-propre de femme en pût souffrir. Mais l'amour, qui est plus fort que la mort, n'a pas de peine, lorsqu'il est véritable, à l'emporter sur la vanité. Elle s'habilla comme une femme qui veut être irrésistible, avec un goût, une grâce et une richesse inouïe. Il semblait que les fées eussent arrangé de leurs mains les délicates merveilles de sa coiffure et bâti sa robe avec des pétales de fleurs, tant elle était frêle et légère, quoique relevée d'agréments de toutes sortes. Son chignon à la Du Barry, invention charmante due à la favorite, et qui séduit par un air voluptueux et négligé, comme si la chevelure, détachée par une main téméraire, eût été relevée à la hâte, l'épingle d'or ayant pour tête un gros diamant et piqué de biais, ornement que n'adoptent pas les prudes, mais qui veut s'y à ravir, lui donnait une physionomie de nymphe en conquête des plus agaçantes, et à laquelle le vieux Priam lui-même n'eût pas résisté, malgré les neiges de l'âge. Elle monta dans un superbe vis-à-vis, dû à la tendresse du prodigue prince de R, et qui n'avait pas coûté moins de 50 000 livres. Magnificence qui ne doit point surprendre lorsqu'on songe que la Guimard se promène à Longchamp dans une voiture aux roues cerclées d'argent et traînée par 6 chevaux ferrés de même, rien ne semblant assez beau à ces impurs qui prennent plaisir à souiller l'or pour narguer la vertu pauvre. Rien n'était plus magnifique et plus élégant en même temps que la voiture où monta Rosette la danseuse. Une reine n'aurait pas souhaité plus luxueuse. Outre le chiffre de Rosette, tracé en fleurs, qui formait le milieu des 4 panneaux principaux sur fond d'or, sur chacun des panneaux de côté, l'on voyait répéter d'une part une corbeille garnie d'un lit de rose sur lequel 2 colombes se becquetaient lascivement, de l'autre un cœur transpercé d'une flèche, le tout enrichi de carquois, de flambeaux, de tous les attributs du dieu de Paphos. Ces emblèmes ingénieux étaient surmontés d'une guirlande en fleurs de Burgos, la plus belle chose qu'on pût voir de ses 2 yeux. Le reste était proportionné. La housse du siège du cocher, les supports des laquais par derrière, les roues, les moyeux, les marchepieds étaient autant de détails recherchés et finis qu'on ne pouvait se lasser de contempler et qui portaient l'empreinte des grâces de la divinité d'un char aussi voluptueux. Chacun, en le voyant passer, s'écriait que jamais les arts n'avaient été poussés à ce degré de perfection et que la galanterie ne pouvait aller plus loin. Et ce fut dans ce superbe équipage que Rosette se rendit à l'hôtel de Candale, faisant l'admiration des hommes et le désespoir des femmes qui s'indignaient de ce qu'une espèce afficha un tel luxe lorsqu'elle-même était forcée de marcher à pieds nus ou de se faire voiturer dans des carrosses de l'autre siècle, aussi surannées que ridicules, mais bien dignes de charrier ses laiderons rechignés et ses vertueuses momies. Le Suisse, colossal et convenablement vermillonné et bourgeonné, secouant la poudre de sa perruque à chaque mouvement, et faisant osciller sur le dos de sa livrée son énorme queue garnie d'un crapaud, ouvrit la porte avec empressement, et le vis-à-vis, traîné par 4 magnifiques chevaux aux crinières nattées de rose et d'argent, tourna dans la cour sablée et vint s'arrêter devant le vestibule de l'escalier qui égalait celui d'un château royal pour la majesté et le grand goût de la décoration. Là, un valet de pied, assis sur une banquette et jouant aux cartes avec un piqueur, répondit au laquais de Rosette que le vicomte de Candale n'y était point. Peu contente de cette réponse qui déconcertait ses plus chères espérances, Rosette fit approcher le valet de pied et le voulut interroger elle-même. « La fleur ou la brie » dit-elle d'un ton interrogatif. « La fleur pour vous servir, madame, » répondit le valet en saluant. « Réponds-moi franchement, la fleur, ton maître est chez lui ?»«
Non, non, madame, il n'y est point. » »«
Tu es sûr qu'il ne se fait point seler ?»«
Oh, s'il se faisait seler pour les fâcheux, il y serait pour madame. » »«
Mais si le vicomte de Candale nous donne pour consigne de laisser passer les jolies femmes, » répondit le maraud, qui se piquait d'esprit et lisait quelquefois des romans dans les antichambres. « Tu es galant, la fleur, comme un valet de comédie, et voilà 2 louis pour ton compliment. Tu dis que ton maître t'ordonne de laisser passer les jolies femmes, à moins cependant qu'il en ait déjà une chez lui. N'est-ce pas qu'il y en a une ?»«
Oh non, madame, lorsque monsieur le vicomte est en affaire réglée, il va dans sa petite maison du faubourg. »
« Oh, c'est juste, » dit Rosette, « où avais-je l'esprit ? » ?»«
Faudra-t-il dire, monsieur le vicomte, que madame est venue ?»«
Oui, n'y manque pas. »«
Madame, de quoi ?» dit le valet avec un air malicieux, quoique plein de respect.
« Rosette tout court, ou s'il te faut un titre, Rosette de l'Opéra, cela vaut un titre de duchesse. »
C'est bien, madame, je regarde de l'oublier, et je vais boire les 2 louis à votre santé, avec mon ami Champagne. »
Rosette fit dire à son cocher de toucher vers le faubourg de, où se cachait la petite maison du vicomte de Candale, qu'elle connaissait par les récits de ses compagnes, sans y être allée elle-même, hélas. Ce n'est pas d'ordinaire en si brillant équipage qu'on se rend à ces mystérieux asiles, mais bien en carrosse unie avec une livrée grise, empaquetée d'une vaste thérèse ou quelques voiles rabattues sur la figure, ou dans une chaise hermétiquement close qui vous jette à la porte, ouverte et refermée aussitôt, sans que le passant curieux ait pu saisir autre chose que la pointe d'une mule de satin et le bout des doigts gantés, soulevant le marteau ou tirant le pied de la sonnette. Comme Rosette n'avait rien à ménager, ni frère féroce, ni mari jaloux, ni protecteur en titre, elle ne risquait rien à se montrer à découvert, et s'en alla heurter bravement à la porte de la petite maison. Un valet, couvert d'une livrée de fantaisie, et qui habitait là au cas qu'un rendez-vous de jour ou de nuit amena monsieur le vicomte, ouvrit aussitôt et introduisit Rosette dans le sanctuaire. Ce vénérable portier de Cythère avait l'air grave, empesé, discret, et pénétré de l'importance de sa place, qui n'était pas une sinécure, car jusqu'alors, le vicomte avait mené joyeuse vie. Il ne parut nullement étonné de la présence de Rosette, quoiqu'il ne l'attendît pas. Mais M. de Candale avait auprès des belles des façons si persuasives et si triomphantes que le temps lui manquait souvent pour prévenir les ministres de ses voluptés. Celui-ci pensa donc que c'était un rendez-vous impromptu et que le vicomte allait arriver. Cette petite maison, que rien ne décelait du dehors, et qui se cachait derrière de grands murs insignifiants, vieillie à dessein pour ne pas attirer l'œil, était une des plus élégantes du faubourg. Tout y était disposé pour le plaisir et le mystère. 4 ou 5 pièces plafonnées en coupole et prenant le jour de haut, la composaient. Tout ce que le luxe peut inventer de rare et de voluptueux y était réuni. Des mythologies amoureuses, dues au pinceau agréable et léger de boucher, le peintre des grâces et des amours, agrémentaient les plafonds et les dessus de portes. Les lambris, tourmentés et tarabiscotés avec un caprice inouï, étincelaient de dorures en or de plusieurs couleurs et représentaient des rocailles, des palmes, des fleurs entremêlées de musettes, des flûtes de Pan, de nids de colombes, de lacs d'amour, de flèches, de cœurs, de coupes, de flacons et autres attributs galants, sculptés avec beaucoup d'art et de délicatesse. L'ameublement était des plus galants et des plus magnifiques. De grandes glaces semblaient prêtes à multiplier les objets charmants dont ces deux enchanteurs avaient le privilège de recevoir la visite. D'énormes vases de Chine en céladon craquelé y contenaient les fleurs les plus rares, incessamment renouvelées. Des tapis épais et semés de roses y assourdissaient les pas. Mais une partie, qui avait été l'objet d'un soin tout particulier, c'était celle des sophas, des duchesses et des paphos. Le sofa du boudoir, entre autres, d'une étoffe bleue de ciel relevée de passementeries et de glands d'argent, eut offert un logement riche et commode à l'âme d'Amanzai, le conteur favori de Shabaham, et eut pu lui fournir autant d'aventures à lui seul que tous les divans d'Agra.